Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical. Ce dimanche, nous allons parler de cette fête de la Toussaint qui va se dérouler mardi prochain, 1er novembre. Et pour nous parler de cette fête, j'ai invité une personne qui a la voix couleur soleil, Margarita Saldana Mostaro. Vous avez participé à la canonisation, c'est-à-dire au fait qu'une personne devienne sainte, et ça s'est passé en mai dernier, et c'était au Vatican, et vous y étiez. Bonjour.
Bonjour Jean-Luc et toutes les personnes qui écoutent cette émission.
Alors parlez-nous de cet homme qui a été canonisé en mai 2022 au Vatican, c'est-à-dire devenu saint. Il s'agit de Charles de Foucault.
Oui, bon, vous avez dit plusieurs choses. Devenu saint, il était déjà, nous croyons qu'il était déjà, c'est-à-dire un saint, c'est un témoin, un chrétien qui a cheminé et qui a essayé de suivre Jésus, de vivre l'évangile. Et c'est ça qu'on considère de très saint, quelqu'un qui est arrivé jusqu'au bout dans ses projets de vie. Après, il a été canonisé, c'est encore une autre chose. Être canonisé, c'est d'être reconnu par toute l'Église comme un témoin pour tous les chrétiens. Et ça s'est passé à Rome, et justement, où il est 15 mai. Mais j'aime bien dire qu'être canonisé, ce n'est pas de faire inscrire son nom dans un registre, ni de recevoir une médaille comme la Légion d'honneur, on pourrait dire. C'est pas ça la Légion d'honneur de l'Église, en fait, être canonisé. C'est justement d'être descendu des autels, pas élevé dans les autels, mais descendu, mis à marcher avec les autres chrétiens, avec, même avec les autres êtres humains, sur la route de l'humanité. Voilà.
Et pourquoi vous avez choisi d'écrire un ouvrage et d'aller au Vatican pour participer à cette célébration présidée par le pape François ?
Bon, tout d'abord parce que j'appartiens à sa famille spirituelle. Bon, il a fondé en soi une petite confrérie des chrétiens de tous les états de vie qui est toujours en vie, qui s'appelle la Sodalité. Mais après sa mort, il y a beaucoup de personnes qui se sont inspirées de lui. Donc une grande famille spirituelle a éclosionné dans l'Église. Et je fais partie de cette famille spirituelle, donc des personnes qui nous inspirons de lui. Et puis aussi, je fais partie d'un groupe de chercheurs sur la figure de Charles de Foucault, sur son histoire, sa correspondance, ses écrits spirituels. Donc je suis bien dedans et ça m'intéressait de pouvoir participer à cette grande fête.
Alors nous avons tous des chemins particuliers. Quel a été celui de Charles de Foucault? Quel était son itinéraire de vie?
Donc, c'est un homme qui a vécu entre les 19e et les 20e, un vicomte, militaire, explorateur, un homme avec une vie très passionnante, avec un parcours très complexe. Mais ce qui me passionne personnellement, c'est la connexion entre cette vie qui appartient au passé, parce qu'il est décédé, ça fait déjà plus de 100 ans, et notre monde contemporain. C'est là où je trouve aussi que c'est l'actualité de cette fête.
Un homme passionné aussi par le désert et la solitude.
En fait, il y a un fort lien entre Charles de Foucault et les déserts, mais dans des étapes différentes de sa vie. Et là, vous faites allusion peut-être à sa première découverte du désert, quand il a donné sa démission de l'armée pour faire une exploration au Maroc. Donc, lui, qui était un militaire pas trop passionné, parce qu'il s'ennuyait, dans la caserne. Enfin, il a décidé, il a dit, je vais poser ma démission pour profiter de ma jeunesse, pour m'instruire et pour voyager. Donc là, il s'est mis à faire un voyage d'exploration au Maroc. Et là, il a été ébloui par le désert, pas seulement par la solitude, mais par la beauté de ces paysages féeriques, par la richesse de ces contrées éloignées de la métropole, et aussi par les gens qu'il a découverts, parmi eux, beaucoup de musulmans, à un moment où il avait perdu complètement la foi chrétienne. Donc ça, c'est une première étape entre Charles et le désert. Je ne dirais pas qu'il est passionné par la solitude. Et certainement, il cherchait la solitude, mais ce n'est pas un homme qui est allé au désert pour s'éloigner ou pour s'isoler des autres, mais justement pour trouver tout ce qu'il ne pouvait pas trouver ailleurs. Donc, c'est qu'il considérait qu'il était plus éloigné, plus excentré, plus dans la périphérie. C'est l'élan vers la relation avec l'autre et à l'autre différent qui les fait aller dans les déserts. C'est paradoxal, n'est-ce pas?
Les mots cœur et vie sont les mots clés de cette émission. Lorsque vous pensez à Charles de Foucault, qui a été donc canonisé à Rome le 15 mai 2022, qu'est-ce que veut dire ces deux mots clés pour Charles de Foucault et pour vous-même, cœur et vie?
Déjà, je prendrai d'abord le mot vie. Charles de Foucault est un passionné de la vie et toute sa recherche, même les années où il vit une vie plus dissolue, si on peut dire, et c'est vraiment dans le but de chercher un sens pour sa vie. Donc c'est quelqu'un qui n'arrête jamais de chercher un horizon de sens pour sa vie. Et là, il va trouver que le cœur de ses sens, le cœur alors de cette vie, c'est l'amour. C'est un homme qui est traversé par l'expérience d'être aimé et de vouloir aimer. À un moment donné, il va découvrir que la façon d'aimer va passer par aimer Dieu par-dessus tout. Mais dans cet amour de l'absolu, il va trouver tout le temps, constamment, l'amour des êtres humains. Donc il va dire, on m'avait dit qu'on avait deux cœurs, l'un de glace pour aimer les hommes, l'autre de feu pour aimer Dieu, c'est faux. On n'a qu'un seul cœur, c'est le même cœur pour aimer l'un et les autres. Donc ça fait aussi vraiment un lien avec ce que j'essaie d'exprimer dans ce livre dont vous parlez, Terre de Dieu, une spiritualité pour la vie quotidienne, où j'essaie de montrer que la vie quotidienne, la vie banale, grise de tout être humain, c'est justement cet endroit où nous sommes censés de chercher, de trouver les sens, ce qui nous fait vivre, ce qui fait battre notre cœur et qui ne se trouve pas dans les choses extraordinaires, héroïques, énormes, mais vraiment dans les plis, dans les recoins les plus petits et les plus cachés de ce que nous vivons chaque jour.
Donc Saint-Charles de Foucault, un homme qui est toujours d'actualité en 2022.
Et ce que j'aime bien dans sa façon de traverser la vie, c'est sa capacité de ne jamais se décourager. Et il avait été élevé dans une famille dont la devise était « jamais en arrière ». Et voilà que dans sa vie, il montre ça. Il y a des difficultés, il y a des chemins vraiment inconnus, inédits, qui s'ouvrent continuellement devant lui, des fois même contradictoires apparemment, mais finalement tout trouve son sens, son assemblage d'une manière qu'on n'aurait pas attendue. Et je trouve que là, il nous retrouve vraiment dans nos vies complexes aussi d'aujourd'hui.
Mais que faut-il faire pour devenir un saint? Il paraît qu'il faut faire un miracle, au moins un.
Ça, ce n'est pas pour devenir saint, ça, c'est pour être canonisé. Et on revient à la première précision que j'ai faite au cours de ces programmes. Parce qu'être canonisé, ce n'est pas le plus intéressant ni le plus important. Le plus important, c'est d'être saint, c'est-à-dire d'être un être humain accompli dans les projets de vie qui est les siens, non ? Et traversé par cette passion par la vie et par l'amour. Alors, une fois qu'on comprend ça, disons que oui, tu as raison, pour être canonisé, et l'Église demande certains signes, disons, comme des vérifications, et un de ces signes, c'est de faire un miracle, même deux miracles. Mais ce sont des choses qui pourraient, en fait, de l'absolu pourraient changer, en fait. Ce sont des traditions de l'Église qui, dans l'absolu, pourraient changer. Et oui, Charles de Foucault a fait des miracles, en fait.
Tendance Confidence, aujourd'hui, avec une Espagnole, Margarita Sardania Mostajo, qui est donc l'autrice de ce livre « Terre de Dieu ». Et pour le sous-titre, « Pour une spiritualité de la vie quotidienne », c'est paru aux éditions Salvator. Avec ce parcours de Saint-Charles de Foucault, qui vous a beaucoup marqué, et nous en avons parlé en première partie d'émission, et vous citez également dans votre livre des dictons uruguayens. N'oublie pas le village, si tu vas en ville, plus tu vas loin et plus il faut te souvenir.
Oui, en fait, c'est « no te olvides del campo si te vas pas la ciudad ». C'est-à-dire que ça parle de l'importance des racines dans notre vie. Quand on part en ville, quand les migrants font l'expérience de quitter son village, c'est-à-dire ses habitudes, tout son monde est connu, il faut plus que jamais ne pas oublier, garder bien attaché et à la mémoire du cœur ce qu'on a reçu, d'où on vient, pour savoir où on va. Je crois qu'on a tellement de raisons aujourd'hui pour vivre déraciné là où nous sommes, qu'il faut bien garder dans le cœur ce que nous avons reçu des bons et des beaux, que ce soit dans notre famille, dans nos amitiés, dans les relations nourrissantes, pour pouvoir tenir bon et savoir où nous allons et comment nous voulons y aller.
Vous parlez tout à l'heure de villages, de villes, et dans les villes nous trouvons aussi des autoroutes. Comment trouver Dieu sur les autoroutes à grande vitesse que peut être aussi notre vie quotidienne? Vous avez parlé aussi de la vie quotidienne tout à l'heure, où parfois il manque les aires de repos qui pourraient avoir goût de paradis.
Ah ça, je suis persuadée que le stress est une des grandes maladies contemporaines en fait. Et là, c'est difficile de trouver Dieu. Et même parce que trouver Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est de rentrer dans la relation avec l'absolu, quelque part. Et c'est à une échelle un peu différente, le même exercice que nous devons faire pour entrer en relation profonde avec quelqu'un, dans une relation d'amour, par exemple. Donc, quand on vit dans les autoroutes, en permanence dans les autoroutes à grande vitesse, hein, et on ne voit pas les paysages, on ne peut pas rester attentif aux détails, à ces petits détails qui font vraiment le cœur de l'expérience et de la relation. C'est pour ça que je crois qu'un des défis de notre vie actuelle, c'est de pouvoir sortir de cette dynamique infernale des autoroutes pour récupérer les petites routes qui traversent les paysages de l'humain.
Quel est le point qu'il faut noter sur le GPS? Quel est le repère qu'il faut noter sur le GPS pour trouver Dieu?
Il y en a plusieurs, mais je dirais l'un, c'est le sens. Qu'est-ce que fait le sens de ma vie? Disons que Dieu n'est jamais à côté de ce qui me fait être heureux, de ce qui me met aussi sur la route de la relation à l'autre, de la transformation de la réalité à ma petite mesure. Dieu n'est pas une présence éloignée, abstraite. Dieu n'est pas un personnage qui peut être confiné dans un livre sacré, ni dans une tradition, ni dans une religion. Dieu est une présence personnelle, Dieu est l'amour. Et d'ailleurs, ça a été la première expérience, une des premières expériences de la conversion de Charles de Foucault, quand il disait « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ». Et il faisait cette étrange prière, disait-il, quand il n'avait pas encore récupéré la foi et qu'il était à la recherche d'un sens pour sa vie.
Donc cette passion pour Charles de Foucault, le christianisme est un dieu de terre, il sait donc de quelle matière nous sommes pétris, c'est-à-dire de poussière. Vous notez cela dans votre livre qui a pour titre « Terre de Dieu, une spiritualité de la vie quotidienne » paru aux éditions Salvatore en 2022.
Une expérience qui me tient vraiment à cœur, c'est l'expérience d'être peu de choses. Disons que des fois on dit « Ah, il faut être humble, il faut pas être humble, il faut reconnaître qu'on est déjà peu de choses, on est petit, on est des petits grains de poussière, mais on est profondément aimé. »
Dieu s'est fait migrant, écrivez-vous, du ciel à la terre, avec tout ce qu'elle contient, notre chair, nos sens, notre psychologie, notre intelligence, notre affectivité, nos rythmes lents, mais aussi notre spiritualité, notre façon de croire.
Oui, en fait, pour le christianisme, c'est l'expérience basique que Dieu a pris cher. Ce n'est pas un Dieu qui est resté tout seul là, dans les hauteurs d'un paradis très confortable, mais qui a choisi de prendre notre chair et de traverser tout l'humain, de faire l'expérience d'être un parmi nous, un comme nous, dans la personne de Jésus. Et ça veut dire qu'il a pris le temps de vivre 30 ans à Nazareth, dans un petit village de la périphérie de l'Empire romain au 1er siècle. Et là, Dieu a fait l'expérience de l'humain et Dieu nous a révélé aussi qui nous sommes.
Les idoles ont souvent d'ailleurs été représentées en argile, une terre de Dieu.
Je pense que Dieu n'a pas eu peur de se salir les mains avec la terre en devenant lui-même un homme, non, un être petit et faible. Disons, la terre représente, c'est pour ça qu'on applique ça aux idoles. Un idole, c'est un faux dieu qui se désintègre. Et dans la terre, va se défaire, ça va se déliter. Alors, Dieu lui-même, en assumant notre humanité, et nous a montré à quel point nous sommes peu des choses. Nous allons vivre l'expérience de mourir. Notre corps aussi va se déliter. Quelque part, nous faisons aussi au quotidien cette expérience de mourir petit à petit dans certaines relations qui ne marchent plus, etc. Et pourtant, cette terre a une vocation, disons, d'éternité. Il y a quelque chose en nous qui reste, qui va vers les mieux.
Comment concevoir que Dieu, infini, éternel, tout-puissant, se fasse homme, devienne bébé, fœtus, qu'il devienne limité, mortel, vulnérable et fragile, lui qui est tout-puissant, lui qui est éternel, et rentre dans un temps qui n'existe quasiment pas, qu'est le temps présent. Et pourtant, sans le temps présent, rien n'existerait.
Bon, c'est que les chrétiens, nous appelons ces mystères les mystères de l'incarnation. C'est justement un des mystères de la foi chrétienne des plus difficiles à croire. C'est-à-dire que c'est seulement par les biais de la foi qu'on peut avoir accès à cette expérience. Parce que autrement, et c'est absolument inconcevable que le Dieu, celui par qui tout a été créé, s'efface en même temps créature.
Et dans votre livre intitulé « Terre de Dieu, pour une spiritualité de la vie quotidienne », un livre paru en 2022 aux éditions Salvatore, vous parlez de la liquidité de nos racines, c'est-à-dire ?
Je pense qu'on est dans un monde où ce qui nous fait vraiment être enraciné ou avoir une expérience de la profondeur de où nous venons, se liquidifie très vite. Hein. Et par la technologie, et je trouve qui nous fait passer très rapidement d'une chose à l'autre, qui nous empêche de réfléchir. Quand les racines se délitent ou se liquidifient, on court un risque énorme, hein, parce que c'est aussi notre identité profonde qui court le risque de se perdre. La récupération des racines dont on parlait auparavant, pas pour rester statique là, dans nos origines, mais pour justement pour nous affirmer, pour pouvoir évoluer vers un avenir librement choisi et construit, les racines solides sont très importantes.
Merci beaucoup Margarita Saldana Mostaro d'avoir participé à cette émission au sujet de votre livre « Terre de Dieu pour une spiritualité de la vie quotidienne » et c'est paru aux éditions Salvator en 2022.
Merci beaucoup, bonne journée.